Pour certains d'entre vous, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de visiteurs, personnes qui nous rendent visite ce matin. Juste pour vous dire ce qui se passe ici, ce qui s'appelle traditionnellement le Notre Père. Et je veux pas que vous arriviez en parachutiste comme ça, en plein milieu de ce sermon. Qu'est-ce qui se passe? En fait, nous demandons au Seigneur de nous parler alors que nous apprenons cette prière d'une nouvelle manière et qu'il puisse nous mener, nous apprendre encore plus, comme les disciples lui demandent de le faire, de nous apprendre à prier. Et il leur demande il leur apprend aux disciples de prier et comment prier. Et en disant ceci, lisons ensemble. Je vais lire un verset et ensuite je vais vous demander de lire un verset et après ça sera à moi et ensuite à vous à nouveau. En antiphone. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tous ensemble, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et alors, Seigneur, nous disons, alors que nous allons focaliser sur cette partie ce matin, par la foi, ensemble, nous disons, Abba, ta volonté soit faite. Et dites-le avec moi, Abba, que ta volonté soit faite. Amen.
Do not be foolish. Anyone need that encouragement from time to time?
Ne soyez pas dans la bêtise, mais comprenez ce qu'est la volonté de Dieu. On entend tellement de personnes aujourd'hui dire « Toutes les croyances sont justes, sont bonnes. Nous avons un seul Dieu à tous. Il n'y a pas une seule manière, un seul chemin. Faites votre propre chemin et ne faites pas de mal aux autres. » Quand vous pensez à cela, ce que cela dit, en fin de compte, c'est une croyance qu'il n'y a aucune absolue vérité. Tout est égal. Il n'y a pas de bien ou de mal. Une tolérance, entre guillemets, parfaite. Si ceci est vrai, les amis, alors nous ne pouvons pas avoir cette conversation ici ce matin. Parce qu'il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité absolue. Ceci n'est rien, en fait. Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Tu ne comprends pas ce que je veux dire, là? C'était une blague, merci. N'est-ce pas intéressant, quand même, quand on y repense? Si nous n'avons pas cette conversation, alors nos mots ne sont rien, ils n'ont aucune signification, et rien n'a de signification, la vie est simplement une absurdité. Quelqu'un dira peut-être, insistera peut-être, non, la vie n'a réellement aucun sens. Ça, c'est l'existentialisme. Il n'y a pas d'absolu, de vérité absolue. Mais vous oubliez une chose. Pour toi, pour que tu puisses dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, ça veut dire qu'il y a forcément une vérité absolue. Est-ce que Dieu n'est pas quand même assez intéressant? Est-ce que vous voyez comment, de manière subtile et comment si puissamment Dieu nous parle de manière si visible? La vérité est juste devant nous si nous choisissons d'être ouverts, et la vérité est puissante. Dieu est tellement plus loin et au-delà de nous, il est tellement autre que nous, et pourtant, ce que nous comprenons de lui, ce que nous pouvons comprendre de lui, a un sens, a du sens. Il faut qu'il y ait des vérités absolues. Et toutes ces vérités nous montrent la grande vérité, la vérité qui est en réalité la raison d'être. Et celui-ci, cette personne qui est la vérité, a des choses réelles pour nous à faire et à être. Est-ce que vous comprenez quelque part une idée de destin, que Dieu est pour nous? Il n'est pas contre nous? Et si votre cœur est juste un tout petit peu ouvert, ceci est évident. Il nous a donné tellement d'indices. Moi, je dirais que cela, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et vous? Dieu a des choses prévues pour nous. Il a des projets dans Éphésiens 5, 17. Nous pouvons les connaître. Il a des projets pour nous dans Jérémie 29, 11. Et c'est des projets de paix et non de malheur. J'espère que cela vous encourage de réentendre cela ce matin. Alors, Dieu a une volonté, un plan, un projet, et nous pouvons le connaître, mais il y a encore autre chose que nous devons comprendre. Il a une volonté, nous pouvons la connaître, mais nous avons un choix. Est-ce que nous choisissons de le connaître, de connaître sa volonté et de dire « Ta volonté soit faite, je veux ta volonté » ou bien est-ce que nous choisissons plutôt notre propre chemin, notre propre volonté? Et tous les jours, nous prenons cette décision-là, chaque instant en réalité. Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs, que vous avez quand même beaucoup de pouvoir? Vous avez le pouvoir du choix. Vous rendez-vous compte ce que vos choix détermineront pour votre vie, pour vous? Ça, c'est vraiment beaucoup de pouvoir que Dieu nous a délégué, que Dieu nous a laissé utiliser. Vous avez le choix. Moi, j'ai le choix. J'ai le droit de choisir quel chemin je vais prendre dans ma vie. Nous pouvons choisir de suivre notre propre chemin. Et beaucoup d'entre vous peuvent dire aujourd'hui, « Ouais, j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas trop. » Mais beaucoup de personnes choisissent cela, de choisir de suivre, la manière de ce monde, de manière charnelle, on peut dire. On peut tomber dans les tentations de l'ennemi de notre âme. Souvent, c'est un mélange de ces trois choses-là. Ou bien, nous pouvons choisir sa volonté, son chemin. Nous pouvons choisir de nous cacher dans la vérité absolue de sa parole. Regardez ce livre que vous avez avec vous. J'espère en tout cas que vous avez une version de sa Bible. Ce livre est la vérité absolue de Dieu. Dites avec moi, vérité. La vérité pour nous. Quel cadeau. Nous pouvons choisir de nous ouvrir au remplissage de son esprit. Philippiens 5, 18. Nous pouvons choisir de vivre dans sa volonté. Nous pouvons choisir de nous asseoir avec Jésus, d'apprendre à connaître son cœur. Nous pouvons choisir de mariner dans son amour. Vous saviez bien que j'allais utiliser ce mot, mariner. Pour ceux qui nous rendent visite, c'est ça le mot-clé à Tikos en ce moment. Vous pouvez choisir de le suivre de tout votre cœur. Vous pouvez choisir de découvrir un monde nouveau en dehors de celui-ci qui est visible, vous pouvez choisir une destinée, un destin éternel avec lui, celui qui est le sens même de cette vie. Vous pouvez choisir cela. Est-ce que vous voyez le pouvoir, le pouvoir et l'influence que nous avons alors que nous choisissons, nous faisons nos choix? Dieu nous a donné le pouvoir de choisir notre chemin, le sien ou le nôtre. S'il nous avait créés comme marionnettes ou robots, si on ne pouvait pas vraiment désobéir ou se planter, quelle sorte de relation est-ce que cela aurait été? Cela n'aurait pas été une relation. En tout cas, pas une relation personnelle. Quand vous et moi, nous avons la liberté de choisir, d'accepter ou de rejeter ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il désire que nous acceptions, et nous le choisissons, lui, dans ce processus, alors ça, c'est cela qui amène un sens profond à notre relation avec lui. C'est ça aussi qu'est le mariage, en fin de compte. N'est-ce pas, messieurs? Nous faisons tout ce que nous demandent de faire nos femmes. Et ça amène réellement un sens à notre mariage, à notre relation. Ou est-ce que c'est le contraire? Attendez, Non, c'est donner et recevoir. Nous nous engageons l'un envers l'autre. Et c'est ça qui amène un sens à l'amour, un engagement l'un envers l'autre. Quoi qu'il arrive. Et ensemble, nous avançons. Mari, époux et épouse, vous pouvez vous regarder et sourire l'un envers l'autre. Vous avez le droit. C'est cette image-là que Dieu a comme image pour nous, le mariage. Et quand ça fonctionne bien, comme on commence à comprendre et voir qui est Dieu et comment il est réellement. Mari, femme, vous êtes dans une position incroyable pour un privilège de montrer au monde qui est Dieu et comment il est dans la manière de vous relater l'un envers l'autre. Bien sûr, aucune pression, hein. Mais ce que cela fait, c'est ce que j'espère que cela vous donne envie de demander à l'Esprit-Saint de vous remplir tous les jours, à chaque instant, parce que réellement nous en avons besoin. Chacun d'entre nous. Alors, quand nous disons « Ta volonté soit faite », nous disons vraiment, réellement, beaucoup de choses. « Ta volonté soit faite, Abba. » Et je veux qu'elle soit faite dans ma vie, ici, sur terre, comme aussi parfaitement que ta volonté est en train d'être faite au ciel. Je veux qu'elle soit faite ici pour ta gloire. Je veux tout. Je veux dans chaque manière possible. Je veux être tellement plein de toi que je peux avoir un impact éternel pour toi dans cette vie, dans la manière que je vis maintenant tout de suite. Quand nous disons que ta volonté soit faite, c'est intéressant. Combien d'entre vous désirent vivre pour la gloire de Dieu? J'espère que beaucoup d'entre vous puissent dire oui, moi. Oui, je veux cela. Combien d'entre nous vivons entièrement pour la gloire de Dieu? Ah, il y en a un ou deux, tant mieux pour vous. Ou peut-être que j'ai besoin de vous parler pour connaître votre secret. C'est intéressant parce que le mot utilisé pour la gloire dans le grec, ça veut dire l'opinion. C'est quand même intéressant, non? Quand moi je dis je veux la gloire de Dieu, je veux dire littéralement je veux son opinion. Alors ça ne veut pas dire que Dieu va peut-être avoir tort un jour. Non. Aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire opinion. Souvent en tout cas. Mais moi je suis en train de dire ce que je désire dans la gloire de quand je veux la gloire de Dieu, je veux ce qu'il pense par rapport aux choses. Je veux ce qu'il veut lui. Je m'engage à vouloir cela. Que son opinion, c'est mon commandement. Je n'ai pas besoin de questionner cela Parce que je le connais, lui. Je connais sa vérité absolue. Il est la vérité absolue. Ça, c'est vraiment puissant. Et quand vous parlez de la gloire de Dieu, souvenez-vous de cela. Sa gloire, c'est quand son opinion est pleinement rendue. Et ça amène l'attention vers lui et démontre combien il est incroyable, combien il est rempli de vérité. Pensez à cela. Certains d'entre vous diront, « Ah, mais j'ai mes droits. J'ai mes droits. » Mais est-ce que ce n'est pas intéressant que nous entendons après cela, cette affirmation, nous entendons, mettez vos esprits sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Les choses ici qui se passent, c'est juste temporaire. Focalisez-vous sur les choses qui sont réelles, entières, les choses qu'on ne voit pas et qui vont durer. Et quelles sont les choses qui sont vues, pas vues? Les choses qui sont vues sont temporaires. Les choses qui ne sont pas visibles sont éternelles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez connu quoi? La mort. Vous pouvez redire ça? Vous avez connu la mort. Voilà. L'ancien homme dont il parle dans Galates et dans Romains, Paul, il est mort, ce vieil homme. Quand vous avez été rendu ou transformé dans une nouvelle création en Jésus, une ancienne partie de vous est réellement morte. Et votre vie est maintenant cachée. Donc votre nouvelle vie, maintenant, en Christ, est cachée avec Christ, en Dieu. Nous devrions pouvoir laisser cela se passer en nous tellement librement que quand ils nous voient, ils ne nous voient pas nous. Ils ne voient pas JJ, ils voient Jésus. Ça commence avec un J, mais c'est, voilà, c'est proche. J'espère que c'est de plus en plus proche. Amen. C'est ça qu'ils voient et qu'ils comprennent de plus en plus. Est-ce qu'une personne décédée... Non, alors je vais vous penser, je vais vous laisser réfléchir, mais est-ce qu'une personne décédée a des droits? Est-ce qu'une personne qui est décédée a des droits? Est-ce que ça ne serait pas intéressant si Trevor, cette semaine, rencontrait Sébastien, cette semaine. Et voilà, salut! Comment ça va? Oui, oui. Est-ce que ça serait intéressant si Trevor demandait, même avant qu'il se quitte, Sébastien, est-ce que tu es encore mort? Comment est-ce que tu répondrais à cette question, Sébastien? Oh là là! Ou est-ce que tu essayes de ressusciter ce vieil homme? Combien d'entre nous, on essaye de ressusciter ce vieil homme qui est en fait mort? Parfois, même sans essayer, on le ressuscite. Il est mort. Si vous êtes une nouvelle création en Christ, ce que vous étiez, quelque chose de ce que vous étiez est complètement parti, décédé. Alors, peut-être que nous ressemblons à l'extérieur que nous sommes le capitaine de notre navire, mais quelqu'un parle à l'oreille de notre cœur et son opinion est notre commandement. Répétez cela avec nous, si c'est le désir de votre cœur. Seigneur, je désire ton opinion. Seigneur, ta volonté soit faite. Ta volonté. Mais alors que nous terminons, j'aimerais parler encore de deux choses. Il y a deux questions que Cathy et moi avons vues en travaillant avec tellement de différentes personnes, en observant ces personnes, deux choses qui nous touchent de manière très significative, parce qu'elles nous empêchent de pouvoir choisir la volonté. Ou bien c'est comme du brouillard devant ce choix, ou bien il nous empêche de choisir. Première chose, c'est l'imagination, la fantaisie, le fantastique. Et là, je ne parle pas de rêver avec Dieu, les choses qui sortent de notre imagination, cette partie de nous que Dieu a créée, qui a créé en nous, en chacun de nous, qui très souvent, d'ailleurs, est négligée. C'est la partie de nous qui reçoit les rêves, les visions, la créativité. C'est la possibilité de communiquer de manière encore plus profonde avec Dieu, voir des choses et clairement à travers le Saint-Esprit, quelque chose peut-être dont on a besoin ou que quelqu'un d'autre a besoin à travers nous. C'est super, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je ne parle pas de l'imaginaire, je parle de l'imagination. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fantasme. Voilà le danger. Lorsque nous fantasmons, nous rendons idéal quelque chose. On idéalise quelque chose. Quand nous fantasmons, nous pouvons le faire dans n'importe quel domaine de notre vie. Ça peut être par rapport à nos richesses, notre pouvoir, le sexe, notre mariage, des enfants, même l'Église. Et encore d'autres choses. Mais la plupart du temps, si nous ne faisons pas attention, nous fantasmons, nous passons beaucoup de notre temps à nous demander comment ce serait possible que les choses pourraient se passer comme ceci, comme cela. Et on passe à côté de la grâce de Dieu dans les choses qui sont réellement. Là, tout de suite, maintenant, dans le présent, ce qui est déjà. Est-ce que vous me comprenez ? Pardon. Et très souvent, ceci produit un esprit critique dans le mauvais sens du terme. Alors, nous avons une question clé. Combien est-ce que j'aime les personnes qui m'ont été données ? Les personnes qui sont dans mon cercle d'amis, de ma famille, d'autres cercles d'influence de notre vie, combien est-ce que je les aime ? Combien est-ce que je suis concerné par leur bien-être ? Ou bien, est-ce que nous recherchons les personnes, les choses qui n'existent pas ? Nous aimons le fantasme, mais pas les choses ou les personnes qui sont déjà présentes. Et ceci endommage nos mariages, nos enfants, nos églises, et nous-mêmes. Ça nous blesse. Et je vous dis cela en vérité. Jésus dit, quoi que vous fassiez, que vous ayez fait pour les plus petits d'entre ces frères, entre ceux-ci, mes frères, vous l'avez fait pour moi. Est-ce que ça ne serait pas intéressant que nous puissions fantasmer par rapport à servir ces personnes-là plutôt ? Et si vous vous rendez compte que vous êtes en train de fantasmer sur des choses qui n'existent pas, de changer votre perspective pour focaliser sur ces personnes-là. Alors que nous prions que ta volonté soit faite, nous disons, nous désirons ça, ces objectifs, ces projets, pas nos fantasmes. Est-ce que cela vous comprenez ? Cela vous touche ?
Abba,
ta volonté soit faite. Abba, ta volonté soit faite. Pas mes fantasmes, mais ta volonté. Mais la deuxième chose, et ça c'est la dernière, Je ne vais pas vous dire ce que c'est encore. Comme ça, vous resterez réveillé. Ceci est devenu un des idoles les plus grands dans le peuple de Dieu. Est-ce que j'ai votre attention à travers cette phrase? Peut-être que nous ne regardons pas des boules en cristal, peut-être que nous ne regardons pas les cartes de tarot, mais beaucoup d'entre nous sont tout aussi désireux de connaître le futur que la plupart du monde, que le reste du monde. On est pris entièrement par ce désir de connaître le futur. Nous prions pleinement que Dieu puisse révéler sa volonté pour nous. Comme ça, on sait absolument, 100%, détail par détail, quel est le prochain pas. On ne veut pas se tromper. Et dans notre soif, ou dans notre addiction pour beaucoup d'entre nous, pour de la révélation de ce qui va venir, on finit par marcher selon la vue et non selon la foi. C'est l'opposé de ce que Paul nous demande de faire dans 2 Corinthiens 5. C'est très subtil et ça peut arriver très rapidement. Parce que c'est cela. C'est là-dedans la visibilité où nous croyons trouver notre sécurité. Vous vous souvenez d'un homme qui s'appelait Abraham? Nous avons plusieurs Abraham ici. Je ne parle pas de vous ce matin, les gars. Mais un Abraham un peu plus avant, plus âgé que vous. Vous vous souvenez de lui? Il lui a dit un jour, Dieu lui a dit un jour, « Hey, Abraham, j'aimerais que tu fasses tes valises et que tu déménages. J'aimerais que tu quittes Our, ta maison, que tu connais depuis des années et des années, et peut-être qu'il a un peu eu du mal avec ce commandement, et il a finalement dit, oui, Dieu, je te montrerai. Et oui, non, mais où allons-nous réellement? Je veux dire, où est-ce qu'on va, là? Non, je te le montrerai, t'inquiète pas. Je te montrerai. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer un gars comme Abraham? Il n'y a pas beaucoup de chrétienté tout autour de lui pendant ces jours-là. Et d'une manière ou d'une autre, il avait déjà un cœur pour Dieu. Il connaissait ce Dieu d'entre tous les dieux. Et il a répondu à cette voix. Et il avait réellement une énorme épreuve. Il a vraiment réussi ce test, cet examen, ce concours. Mais dans ces conditions-là, il a réussi. Il a dit, oui, d'accord, je pars, j'y vais. Et il est parti. Même ne sachant pas où il allait, même s'il ne savait pas du tout où il allait. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui sont mentionnées dans Hébreux 11, les héros de la foi. Certains qui ont vraiment, ils nous ont tous montré l'exemple. Brennan Manning parle d'un physicien qui s'appelait James Cavanaugh. Il arrivait à un moment dans sa vie où il y avait comme une croisée des chemins. Il ne savait pas par quel chemin passer. Qu'est-ce que je fais avec le reste de ma vie? Et un ami de cet homme a recommandé qu'il aille dans la maison des morts, à Calcutta. Qui est-ce qui était là auparavant? C'était Mère Teresa. Alors, il se retrouve là-bas, à Calcutta. Il allait être là-bas pendant plusieurs mois. Et le lendemain de son arrivée, il a rencontré Mère Teresa. Il lui a parlé pendant quelques minutes, ce qu'elle faisait très souvent avec les nouveaux arrivants. Et elle a dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et il a dit, « J'aimerais que vous priiez pour moi. » Ça, c'est vraiment un bon début. Et elle a dit, « Qu'est-ce que vous voulez que je demande pour vous ?» Et il a dit, j'ai besoin de savoir quoi faire avec le reste de ma vie. Prie pour la clarté. Et tout de suite, elle a dit, ah non, moi, je ne peux pas prier pour la clarté pour vous. Clarté de vision. Pour lui, c'était comme une gifle, quoi. Et il était tellement surpris. Non. La clarté dans nos décisions, c'est la dernière chose que vous tenez en main, à laquelle vous vous agrippez. Et vous devez lâcher cette chose. Et il a dit, mais vous avez toujours eu de la clarté. Elle a rigolé, elle a dit non. Je n'ai jamais eu de la clairvoyance ou de la clarté. Ce que j'ai reçu, c'est la confiance. Et moi, je vais prier que vous puissiez apprendre à avoir confiance en Dieu. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette histoire ? D'une certaine manière, ça n'a pas d'importance ce que nous ressentons. Mais j'ai besoin de choisir la bonne école. Et comme ça, j'aurai le futur parfait. Ou si je me marie, est-ce que ça sera la bonne personne ? Je ne sais pas. Et si nous déménageons, est-ce que c'est vraiment là où nous devrons être ? Et si je prends ce boulot, est-ce que je serai vraiment heureux ? J'ai besoin de savoir les détails, j'ai besoin d'être absolument certain. Nous pouvons très facilement idolâtrer la clarté, la clairvoyance. Nous pensons que ces choses-là pourront garantir notre succès, enlever nos anxiétés. Et comme les personnes qui ont un coup de pouce, les personnes qui ont des informations spéciales, et souvent c'est illégal et c'est d'avoir des informations secrètes et à Wall Street, et vont savoir où mettre les sous, et ils ont reçu ces informations secrètes d'une manière dont ils ne devaient normalement pas avoir. On est presque comme cela avec Dieu. Au sein de tout cela, Jésus dit tout simplement, il nous appelle tout simplement à lui faire confiance. Juste à lui faire confiance. Ô Père, Abba, ta volonté soit faite. Dites cela avec moi. Si c'est votre désir, Abba, ta volonté soit faite. Soit faite. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît ?